Alors, ça avance la préparation des proxy, du week-end proxy jeu?
Bah oui, ça va, ouais, c'est speed quoi.
Salut les gars!
Ah, salut Flavien.
Alors, vous parlez de quoi de beau?
Bah on parlait préparatif, et je disais que
Ah!
j'étais un peu à la bourre, je cours partout, tu vois, j'avais mon jardin aussi à faire, voilà, vous n'aurez rien à vous cacher, donc là j'ai passé ma matinée et une bonne partie de l'après-midi à m'occuper du jardin, tailler les tout ça. Mais bon, j'ai quand même pris une petite pause hein, pour faire des jeux.
Ah ouais? T'as joué à quoi?
Et eh ben j'ai joué à Gangs of Kyoto avec les enfants, mais ils avaient pas encore joué. En fait, j'étais persuadé, tu sais, je lance la partie et puis ils me font mais ça joue comment? Bah, j'avais déjà joué, non?
Ouais, il me semblait qu'on avait déjà joué avec
Non?
eux, mais ça doit être un faux souvenir.
Bah ouais, bah toi aussi, toi, moi aussi. Bon bref, je dis c'est bon, c'est pas compliqué, vas-y on joue. Et c'est presque vrai, hein? Tu peux presque lancer la partie comme ça et puis ouais, c'est marrant pas juste parce que ça m'a fait repenser à toi Bartouf, parce que on sort du dossier sur les remakes et Gangs of Kyoto c'est un remake.
Et oui.
Tu connais ou pas?
Oui, je connais.
Ouais. Et tu connais le jeu d'origine, Danger 13?
Eh ben non, ça par contre, je vois un visuel, mais c'est tout.
Ouais, ouais. Alors j'y avais joué en fait, mais j'avoue que je me rappelais pas quand j'ai joué à Gangs of Kyoto la première fois. Ouais, voilà, bon, j'ai une mauvaise mémoire des jeux, mais alors en plus comme du coup les visuels vont absolument rien à voir, j'avoue que du coup j'avais pas fait le lien. Ouais, c'est un jeu de Rudy Gordorn.
Grand auteur.
Ouais,
il devra passer dans un certain grand jeu celui-là. Hein,
il est pas encore passé. Hein. Faudrait qu'on trouve un support. Voilà. Ou alors faut qu'on abandonne un peu le principe de, on traite un grand jeu et puis je sais pas. Bon, bref, ouais.
Las Vegas.
Bah ouais, c'est ça, Las Vegas. Ben on retrouve quand même ce côté taquin, quoi. Tu vois, Las Vegas, c'est quand même.
Ouais.
Vas-y, je m'oppose là pour bien te faire chier. Et dans Gangs of Kyoto, tu sais, t'as ce truc mécanique que le professeur adore. Je crois qu'il l'avait déjà dit dans deux trois émissions. C'est le principe de tu prends autant de cartes qu'il y a de joueurs et joueuses autour de la table. Tu vas en donner une à chacune. Voilà. Sauf que tu ne vois évidemment pas d'avance les cartes qui vont arriver. Donc t'en retournes une. Puis là, tu dois choisir à qui tu la files. Et il y a vraiment ce côté ascenseur émotionnel, souvent de la dernière carte. Ou tu sais, soit tu te l'es réservé parce que tu vois c'était pourri, puis en fait elle est encore pire. soit tu dois la filer à quelqu'un, et puis en fait elle est mieux que celle que t'as chopée, quoi. Forcément, enfin statistiquement, c'est obligé. c'est obligé que ça te.
ouais. Il y a un petit côté prise de risque comme ça, moi j'adore aussi.
Ouais, c'est vraiment c'est simplissime, quoi. C'est ouf. Oui, il faut réunir 13 clochettes.
Ouais, d'où le titre d'origine, le Danger 13.
Oui, voilà, oui, qui est plus parlant du coup que le nouveau titre hein, Danger 13, alors que là effectivement Gangs of Kyoto ouais. C'est vrai que c'est quand même un moyen mnémotechnique parce que 13 c'est pas forcément, enfin si, c'est quand même le nombre qui porte malheur machin, donc du coup c'est vrai que mnémotechniquement c'est pas si mal trouvé. T'as des trucs spéciaux, tu sais, t'as des pouvoirs spéciaux. Je sais pas, juste réunir 13 clochettes, donc il faut réunir 13 clochettes pour gagner. Et en même temps, il faut pas atteindre le chiffre 13. Donc sur les cartes, t'as des valeurs. Et à côté de ça, t'as éventuellement des clochettes ou pas. Et donc quand t'atteins 13, tu exploses. Et c'est aussi ce principe, tu sais, des jeux dans lesquels finalement, alors à la fin, t'as bien un seul gagnant, mais dans les manches, t'as un perdant en fait, tu vois. Donc t'as vraiment le bouc émissaire. Alors j'avoue que ça, c'est pas toujours. Tu vois, on a joué avec les enfants, hein, des moments quand le bouc émissaire, c'est un des enfants. Bon. Alors t'expliques, oui, mais enfin bon, tu sais, c'était logique. En fait, j'étais obligé de te choisir parce que bon, là,
ouais.
Toi, t'explosais et du coup, nous, on marque des points. En plus, j'en marque plus que les autres, donc bon, tu veux, voilà.
C'est quand même des choix raisonnés. C'est pas du pur Texas, en
oui,
fait.
Oui, oui.
Enfin, tu peux le jouer en pur Texas et en mode vengeance, Mais comme dans Flip 7, c'est quand même des choix que tu pèses.
Ouais.
Et que tu ne fais pas au hasard, quoi.
Ouais, 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 t'as quand même des raisons d'aller d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment ce côté où, tu regardes le nombre de clochettes que les gens, ils ont, et s'ils en ont beaucoup et que tu fais exploser quelqu'un d'autre, tu vas quand même le faire scorer, ce joueur ou cette joueuse. Donc, il y a des coups malins, des coups pas malins, donc t'es quand même un peu orienté, dans tes choix, potentiellement. Et en même temps, tu peux leur dire fuck à tes choix. Si t'as envie de jouer autrement.
Ouais, tu peux dire, tu m'as fait exploser plus tôt, attends-toi. Ouais.
Il y a ce petit côté-là qui entre en ligne de compte, et les parties précédentes aussi, potentiellement. Et il y a des petits effets spéciaux. T'as les clochettes qui scorent direct. Parce que normalement, il faut attendre, du coup, que quelqu'un ait explosé pour que tu scores tes clochettes. Pour que tu les mettes en réserve. Et, t'as des clochettes qui scorent direct. Donc elles vont direct en réserve. Alors ça joue énormément pour l'ascenseur et dans l'ensuite émotionnel. Quand tu dois donner des clochettes comme ça aux autres, t'es un peu deg. Et quand toi, elle tombe et que t'as pas encore pris ta carte, c'est génial, quoi. Là, il y a vraiment un truc dans ce jeu qui est, comme je dis, assez simplissime, et en même temps qui provoque des émotions qui sont vraiment très cool.
Ouais, il y a le petit effet qui te force à piocher au pif là, qui est exceptionnel en termes de justement d'émotions, parce que tu peux en plus les enchaîner ces trucs là.
Mais oui, c'est ça. Mais nous, on a eu le coup là. On a enchaîné deux parties. Hein. À un moment, ma femme, je lui file un plus, puis elle tire un plus, elle retire un plus, elle retire un plus, elle retire un plus, boum, elle explose, quoi. Enfin, tu te dis, c'est relativement improbable, mais c'est, un peu comme, alors peut-être pas aussi puissant que Flip 7, tu vois, quand même, mais c'est un jeu qui va créer des situations, malgré tout.
C'est dans la même famille, et il a pas du tout le même succès, ni l'original, ni celui-là, mais pourtant, clairement, hein, c'est des jeux qui se rapprochent en termes de sensations et d'émotions.
Le côté prise de risque, quoi. Sauf que là, c'est prise de risque en mode, vas-y, je vais peut-être faire des cadeaux. Il y a ce côté jusqu'où je vais retourner les cartes pour essayer, espérer avoir une meilleure carte, moi. Puis des fois, t'abandonnes et tu prends une carte qui est peut-être moyenne, mais bon, finalement, dans cette situation-là, c'est pas si pire, quoi. Et donc, réédition. Et tu vois, ça, c'est le genre de jeu, tu te dis, c'est cool que ce soit réédité. Voilà.
Bah, ou que ça existe encore, en fait. Si Danger 13 était toujours édité, en fait, il aurait pas besoin d'avoir un truc fait dans l'univers de Kyoto Neko et trucs avec des chats mignons. Mais en fait, c'est juste qu'il y avait une absence de ce jeu-là et que, du coup, en fait, ça permet au même jeu de réexister autrement.
Ah, il y avait quand même une différence, je crois, avec Danger 13. C'est la fin de partie. Parce que dans Danger 13, tu finis le paquet, je crois. Alors que là, tu peux aller plus loin. Le but, c'est d'avoir les 13 gros lots, quoi. Voilà. Je vois pas trop pourquoi ce changement.
Ce qui est un peu bizarre, parce que tu te dis justement Danger 13, le titre. Moyen mnémotechnique, tu te dis, il y a le 13 du pas dépassé pour exploser. Et en même temps, ça aurait pu être aussi le 13 de fin de partie. Ouais. Mais non, dans Danger 13, c'était pas la fin de partie, les 13. Donc c'était un mnémotechnique, mais que sur un des deux. Alors que là, ils ont enlevé le 13, mais du coup, ils ont rajouté aussi ce 13 de fin de partie.
Alors c'est, dans l'ancienne version, finalement, c'est peut-être plus élégant parce que tu finis le paquet et là, tout le monde sort ses cartes et compte. Et là, c'est vrai que dans cette version Gangs of Kyoto, il faut que tu recomptes ou tu te rappelles combien t'avais mis dans ton tas et tu vas mettre fin à la partie quand quelqu'un va dire j'ai 13 ou plus dans mon tas.
Ça crée une situation de course en fait qu'il n'y avait pas avant et que je trouve quand même cool, moi.
Oui.
Parce que du coup tu estimes plus, attends, mais est-ce que t'es proche des 13 ou pas, et notamment avec ces cartes spéciales grelots qui peuvent interrompre la partie instantanément en dehors d'un décompte, quoi, qui n'était pas le cas avant. Et je trouve que du coup ça crée encore une situation sympa, quoi, quand même.
Bon, voilà, quoi, ouais. Ouais, puis forcément l'édition elle est quand même un peu plus jolie, hein, on va pas se mentir, que dans 13, c'était quand même pas très très beau. Là, on a, il y a Jérémy Fleury, tu vois, aux manettes. Du coup, c'est quand même un. Bon, moi, je suis pas forcément hyper sensible à ce genre de truc, mais ça va attirer plus facilement les gens autour de la table, quoi, on va dire.
Ouais, faut savoir que cette mécanique-là elle a pas de nom encore. Ce truc de répartition un par un, je sais pas comment, qui est vraiment spécifique parce que par exemple, dans Courtisan, t'as tout de suite les trois à répartir et ça change complètement les émotions. Et donc, c'est vraiment très différent. J'aime pas du tout Courtisan et j'adore Gangs of Kyoto, notamment pour ça, en fait. Pour cette différence de timing, mais voilà, il faut trouver un nom.
Ouais. J'avais joué à Kado récemment, qui utilisait aussi cette mécanique.
Ouais.
Mais
c'est moins
bien. Je sais pas, bah non, bah non, c'est moins bien. C'est moins bien. La mécanique seule fait pas tout le jeu. Là, t'avais un côté un peu spatial. Bon, en plus, ça fait un peu PPP, quoi. Tu vois, donc il faut agencer ces trucs un peu correctement pour faire des lignes, des colonnes.
Le scoring était nul dans Cadeau, ouais.
Ouais, ouais. Alors que là, ben, le scoring est, j'ai envie de dire, il est un peu bidon quand même dans, tu vois, dans Grand Prix Auto, mais c'est juste pur, simple, voilà, quoi. Et ça provoque tout de suite. Tu sais, enfin, tu sais, tu vois tout de suite. Tu donnes un gros lot à quelqu'un, tu lui donnes un point potentiellement, quoi. Tu vois, c'est très direct. Il y a pas besoin de se dire, ok, je lui donne ce truc-là, il est en train d'entamer sa ligne. Peut-être que finalement, il la finira jamais. J'en sais rien. Non, là, c'est direct. Tu sais tout de suite ce que t'es en train de faire. Tu pèses tout de suite ton choix, quoi. Bon, voilà. Et toi, Flavien, t'as joué à des trucs intéressants dernièrement?
Alors intéressant, oui, pas très bon mais intéressant, et c'est cool parce que du coup tu parlais de Jérémy Fleury qui était sur Gangs of Kyoto, on va finir. Ouais. Moi aussi, il y a lui aux illustrations, mais ça date un petit peu plus, c'est Fertility, et si tu te rappelles, on y avait joué déjà ensemble en 2018 à Des Vraies Ailes et des Jeux, au moment de la sortie je pense.
Ouais, ça devait être à la sortie, ouais, je pense, oui, parce que c'était sur un festival, donc ouais. Ouais. Mais alors je me rappelle qu'on avait joué ensemble, tout à fait, oui.
Et du coup, quand j'ai dit comme ça, je joue à Fertility, Bartouf, tu nous as fait remarquer aussi qu'en fait, on avait déjà parlé chez ProxyJeux, en fait, que, et du coup, j'ai été réécouter l'épisode des Vraies Ailes et des Jeux, et je trouve qu'on disait pas trop n'importe quoi. Écoute, je pense que, tu vois, le jeu, en fait, bon, il est pas très intéressant, et c'est ce qu'on disait déjà à l'époque, qu'il était pas fondamentalement désagréable, mais que c'était très lambda, c'est une espèce de petite salade de points, tu vois, et où tu vas poser des tuiles sur un plateau central, j'y reviendrai après, mais ouais, tu vas poser des tuiles, et puis ça va te donner des ressources, tu vas pouvoir acheter des trucs, et tes ressources, tu vas essayer de les utiliser pour gagner des points et compagnie. Rien de très foufou, notamment au niveau des scoring, il y a rien de super intéressant. On le trouvait déjà assez lambda à l'époque, en fait. Il est pas moins lambda aujourd'hui, hein, finalement.
C'est pas comme le bon vin.
Non. Mais un peu quand même. C'est pour ça que c'est rigolo. Ah. Mais il y a quand même un truc à retenir dedans, mais qui est un peu artificiel, c'est le fait que les ressources que tu gagnes, t'es obligé, tu sais, de les utiliser dans le tour, parce que sinon tu les défausses. Donc les utiliser entre guillemets, parce que tu peux les stocker sur des contrats que tu vas acheter, mais il y a quand même ce côté un peu contraint de, ok, tu vas essayer de gagner des ressources, mais attention, faut que tu arrives à dépenser les jetons dans ce tour-ci, sinon t'as surjoué et tu finalement t'as mal joué quelque part. Mais surtout, ce qui m'a fait marrer d'y rejouer, c'est que en fait, même s'il est pas fou, en fait, il a gagné en qualité, entre guillemets, avec le temps, parce que la qualité globale a diminué, je pense.
C'est-à-dire la qualité des autres jeux,
ouais, du marché,
qui se rapproche
en fait,
un peu, c'est
du
ça
marché, en fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement sur du plateau personnel, etc., que là, en fait, dans Fertility, t'as quand même ce plateau central sur lequel tu vas poser tes dominos et où, du coup, t'as le sentiment de créer un peu des ouvertures ou de profiter de ce qu'ont fait les autres. Donc, t'as quand même l'impression de jouer ensemble. Alors, ça reste limité et c'est pas d'interaction violente, etc. Mais du coup, dans un paysage actuel où c'est moins le cas, en fait, tu te dis, c'est quand même cool de jouer ensemble sur le même plateau. Là, tu fais ça, fais gaffe, le pose pas là, sinon lui, il va en profiter. Tu vois, on a joué à trois. Il y a quand même ces discussions qui existent et qui disparaissent aujourd'hui beaucoup dans les PPP, justement, où t'es vraiment sur ton espace perso.
C'est marrant parce que, tu vois, effectivement, c'est ce que je disais. En fait, je me rappelle qu'on avait joué ensemble, mais je me rappelle pas du jeu. Et j'aurais effectivement était capable de parier que c'était un PPP, quoi. Tellement, tu vois, dans mon souvenir, tellement aujourd'hui, il y en a des PPP, que j'ai souvenir qu'on, effectivement, on posait des tuiles, et donc, entre guillemets, par réflexe, par habitude, j'avais en tête que c'était plutôt un PPP, quoi. Mais non, d'accord, ok.
Mais c'est un peu un PPP, mais plutôt un pose-prise-point. Parce que du coup, tu poses ton domino, tu prends tes ressources, et ensuite, tu les utilises pour scorer. Tu vois, c'est pas un prise-pose-point, du coup. Pose sur un plateau central, prise de ressources. Donc bon, après, je pense pas que ça s'inscrive dans la logique du PPP, mais c'est juste que je pourrais utiliser les 3 P.
C'est pause, thésaurise, point, c'est ça?
Et ouais, et du coup, en fait, c'est con parce que en 2026, t'as un peu un sentiment de fraîcheur en y jouant à ce jeu de 2018. Parce que le marché a évolué, parce que les propositions de vie qui ont évolué sont tournées vers des choses plus personnelles et où du coup, le jeu est toujours pas fou, encore une fois, hein, la salade de points est pas très intéressante et tout, Mais juste de ça, tu te dis, ah, c'est quand même cool de jouer ensemble sur le même plateau.
Hein, c'est fou. Hein.
C'est, tu vois, c'est pas le bon vin qui est meilleur, finalement, en vieillissant. C'est juste que, un vin moyen de l'époque, tu vois, il serait meilleur qu'un vin moyen de, actuel. Bon, j'ai pas fini filer la métaphore trop longtemps, mais ça marche pas.
Ouais,
on
sent que t'es en train de te noyer, là.
Mais le truc, c'est que du coup, en fait, en termes de plaisir ressenti, bah, j'y ai pris plus de plaisir en 2026 qu'en 2018. Parce que le marché a évolué, c'est pas grâce au jeu qui, je pense, reste assez faible, mais parce que le design actuel me correspond moins et que du coup, ce truc-là, même si c'était pas terrible, bah ça correspondait plus à mes goûts et donc aujourd'hui, comme c'est plus rare, en fait, bah il y a le sentiment de jouer un truc un peu moins, un peu moins balisé, quoi, un peu moins semblable à tout ce qui sort en 2026. Et je trouvais ça rigolo, tu vois, cette évolution-là.
Ah, il y a peut-être plein de jeux moyens qu'on a trouvé moyens à l'époque qu'il faudrait peut-être qu'on réessaye aujourd'hui.
Et il y a un truc rigolo aussi, enfin c'est moins rigolo que mon trajet personnel, c'est que Cyril Leroy, c'est l'auteur, et en fait il avait fait Sapiens avant, qui était aussi un jeu qui utilisait les dominos et quelque chose qui n'était pas si fréquent que ça, alors King Domino existait déjà, mais tu vois, lui il l'utilise vraiment différemment quand même avec sa pose sur un espace central et tout. Justement, tu vois, King Domino, on était dans le PPP. Et en fait, donc Fertility, effectivement, utilise des dominos, mais c'est quand même très différent en termes de sentiment de jeu par rapport à Sapiens. Mais en fait, Cyril Leroy, il a rien fait depuis, j'ai regardé. Et il a fait ces deux jeux avec des dominos que tu mets sur un espace central, et depuis, il a rien fait.
Ok.
Voilà, donc c'était rigolo de le voir, ce gars sur ses... Non, c'est pas lui qui a fait Kumata récemment, je crois que c'est un autre Leroy. C'est Claude Leroy qui utilise des dominos aussi.
Oui, c'est un autre Leroy, ouais.
Avec
oui.
des dominos sur un plateau central aussi, mais qui n'a rien à voir. Et voilà, et donc ouais, bah c'était aussi chez Catch-Up à l'époque, et c'est rigolo parce que dans ma tête, c'était genre un de leurs tout premiers, et effectivement, c'est leur début de carrière, mais il y avait eu quand même pas mal de sorties entre Sapiens et Fertility.
Ça devait être bien être le 5 ou 6e.
Ouais, il me semble, ouais, quand j'ai vérifié, ça devait être.
Bon, faut pas
ça.
Que tu me demandes lesquels étaient avant, mais.
Il y a eu Paper Tales, je crois, la localisation. Il y a eu.
Twelve Heroes.
J'ai regardé. Ouais, Twelve Heroes, voilà, j'ai vu aussi quelques-uns comme ça. Mais voilà, donc c'est plus une histoire perso que vraiment discuter du jeu, mais de réévaluer un peu le plaisir qu'on prend sur un même jeu des années après parce que le marché évolue et que... Toi, t'avais essayé Bartouf, du coup ?
Fertility, non, je l'ai offert à mon beau-frère et on avait dû faire une partie, mais c'était, tu vois, rapide juste pour baliser les règles. Et c'était à un moment où moi justement je suivais pas mal les sorties de Catch-Up à leur début. Je trouvais que c'était une maison d'édition assez intéressante. Et du coup on lui avait offert parce que les autres jeux qu'il aimait c'était des trop gros jeux. Et en fait du coup il trouvait pas de joueurs avec lui. Et du coup on lui avait dit ah bah ça devrait... avec les joueurs avec qui tu nous parles, avec qui tu peux jouer, et ben ça devrait leur correspondre. Donc voilà.
Je pense en tout cas que c'est un jeu qui a disparu, tu vois, du rayon du neuf. Clairement, tu vois, on le trouvait moyen, voire mauvais, et ben, il n'y a pas de secret. Hein. Peut-être qu'il reviendra comme Kong Kyoto dans 10 ans, c'est pas. Enfin.
Je suis sceptique, mais qui sait.
Ouais, moi aussi, ouais. Et toi, du coup, Bartouf, t'as joué à quoi ?
Eh ben, moi, c'est à moitié en lien avec Cyrus, parce que moi, la dernière fois qu'on a fait un jeu du mois ensemble, Flavien, donc c'était par rapport à The Pick Team, où justement, t'as la mécanique de Danger 13, et donc Gangs of Kyoto, qui est à l'envers, où du coup, c'est coopératif, et je sors les cartes, et je te distribue des missions, et j'espère donner les bonnes missions aux bonnes personnes. Lors de cette émission, où je refaisais le point sur notre ami Scott Helms, Flavien t'avait dit, parce que je faisais un petit tour de sa ludographie comme ça, et puis t'avais dit, ah, il y a Danger de Blé aussi, qui est intéressant. Et puis c'est tout. Et puis du coup, bah moi je sais plus, j'ai fait une commande et à un moment chez quelqu'un, enfin sur Ocaseo, et tout à coup je vois Danger de Blé dans ce qui est proposé par la personne, et du coup je me dis oh bah tiens, allez je rajoute et je vais essayer. Eh ouais. Bah Flavien il a dit c'est intéressant, c'est pas cher, je me dis allez on y va. Soyons.
C'est drôle parce que du coup ça fait aussi un lien avec Fertility parce qu'il y a cette méca dans Danger de Blé que certaines personnes n'aiment pas où si tu as trop de ressources dans ton truc tu dois les donner à l'autre.
Ouais.
Alors tu vois et moi les ressources tu pouvais pas les conserver aussi d'un tour sur l'autre. C'est un peu différent, mais je fais des ponts comme je veux.
Et du coup, j'ai découvert Danger de Blé. Alors, Danger de Blé, ça avait fait pas mal de parler à l'époque, hein, à sa sortie, hein, je me souviens de ça.
Dans ton cercle.
Ouais, oh non, c'était le passe-temps qui l'avait beaucoup poussé à un moment.
Ah bon, ok, peut-être.
Si, c'était Sébastien du passe-temps qui adorait. Et donc, dans ce jeu-là, du coup, on est vraiment, alors là, sur le jeu à l'allemande, Michael Menzel aux illustrations, et alors la mécanique, enfin l'histoire qui nous est racontée, on est deux villages voisins, on partage les champs, mais on fait un combat pour savoir qui fait la meilleure bière et le meilleur pain. Allez, boum! Alors là!
Ça, c'est ça qu'on me compète quand même.
Mais, ce thème qui nous a l'air complètement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il a l'intérêt par rapport au niveau mécanique. Justement, comme tu disais, Flavien, ce qui est intéressant, c'est que, si tu prends trop, eh ben, on sait des champs en commun, on va quand même pas perdre de la nourriture. Donc, tout ce qui est récolté en trop et que je ne peux pas stocker, je suis obligé de le donner à mon adversaire. Pas de perte. Donc, du coup, voilà, ça, pour une fois, le thème vient faire quelque chose au niveau mécanique, ça se tient à moitié. Bon, sinon, surtout, ce qui m'intéresse dans Dorgé de Blé, c'est que le jeu t'incite à avoir une suite logique à jouer dans un certain ordre tes cartes. On est sur un jeu où on joue des cartes qui ont trois effets. La première, donc les cartes sont divisées en trois. La première partie du haut, c'est je récupère des ressources. La deuxième partie, c'est si je remplis telle recette, je vais avoir fait du blé ou enfin du pain ou de la bière. Et la troisième partie, c'est un pouvoir. Et le jeu se propose de faire ça comme ça. Donc normalement, la logique voudrait que je prenne mes ressources, je fasse ma recette et quand je fais un pouvoir, il faut savoir que du coup, quand j'ai fait mon pain et quand j'ai fait ma bière, eh ben, elle reste sur ma boulangerie et ma brasserie. Et pour les vendre, il faut que je fasse un pouvoir, que j'utilise la troisième partie d'une carte pour que, hop, tout dégage. Donc, si je voulais bien jouer, et sachant qu'en plus, on a, pour toujours faire dans l'équilibre à l'allemande, on est avec un système à la, un scoring à la Knizia. C'est-à-dire, voilà, je peux pas faire que du blé ou, enfin, que du pain ou que de la bière. Il faut que ce sera le plus petit score des deux qui sera mon score final. Donc, la logique voudrait que je fasse, je récolte, je fais du pain, je fais de la bière et ensuite, je vends tout en faisant un petit pouvoir. Et le jeu, donc, te force à faire ça, et moi, du coup, ça m'a beaucoup fait penser à, à ce que tu m'as fait jouer, Cyrus, pour un jeton à la mare, c'est-à-dire Carnuta.
Ouais.
Ce truc où t'es sur un surf, et tu vois ce qu'il faut que tu fasses, et le mieux serait d'essayer de faire ça, sachant que tu vas pas forcément pouvoir. Surtout que ce que je trouve, à moitié intéressant, c'est que t'as quelque chose du twist de Faraway, parce que ce que j'ai pas dit, c'est donc on fait plusieurs manches, mais il y a les manches où c'est fertile et les manches où c'est pas fertile. Les manches où c'est fertile, si j'ai 5 cartes en main, j'en joue une et on se fait un draft, donc on s'échange nos mains, j'en joue une, on s'échange, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on les ait tous jouées. Et au moment où c'est plus l'année fertile, je récupère mes cartes que j'ai posées devant moi pour récolter, et je les récupère en main, et puis j'en pioche un peu plus, et on peut faire des échanges avec un peu de cartes qui sont proposées sur le côté. Mais ça, c'est du bouinage, c'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vu que les recettes sont hyper dures à faire, très très précises, et que toi, t'as un stock assez limité, ce qu'il faut que tu fasses, et ça, je trouve que ça rejoint la pensée un peu inversée de Faraway, en fait, au premier tour, ce que je pose comme ressource, en fait, c'est ma mission. En fait, j'ai regardé mes cartes, je me suis dit, ok, je veux faire telle recette, là, j'ai pas les ressources, donc je vais jouer cette carte recette, mais en tant que ressource, pour pouvoir la repiocher à la deuxième manche, parce que là, je me serais donné comme mission d'avoir ces ressources-là et de pouvoir faire la recette. Vous voyez
ouais,
le...
Ouais, ça marche pas à chaque fois. Mais...
ouais.
J'ai pas mémoire d'avoir joué comme ça, moi. Mais...
Si, il faut faire ça et prévoir les manches intermédiaires, effectivement, et jouer des trucs que tu vas récupérer après pour les faire. Mais sauf que, même en y pensant, des fois, ça marche pas, parce qu'effectivement, c'est un jeu très, très resserré, au contrat très précis, et que ça peut être très frustrant, parce que t'as l'impression de faire beaucoup pour pas grand chose, quoi.
C'est ça. Et c'est là où moi je sens le moment du surf et que je trouve beaucoup plus agréable que Carnuta. C'est-à-dire que je viens de me donner mon objectif, première manche, tu vois. Je récupère les cartes de l'autre, je me dis, ok, donc ça c'était mon pain, donc maintenant ça sera ma bière. Et maintenant, à moi de m'arranger pour avoir exactement ces ressources-là au prochain tour, sans trop perdre de... Et donc, dans le fameux fil, comme je vous disais, où je récupère mes ressources, je fais mes deux trucs et je fais mon pouvoir, eh ben j'essaye de ne jamais... d'être toujours exactement dans cette séquence-là, sauf que ça sera pas possible. Et donc, à un moment, il va falloir que je fasse un pouvoir, parce qu'il va m'arranger, mais en même temps, c'est pour rien, parce qu'il vire pas des... Il me fait pas vendre ma bière et mon pain, parce que j'en ai pas fait. Enfin... Et ainsi de suite. Et du coup, t'es toujours en train d'être là sur le... Tu vois, j'ai l'impression vraiment d'être sur la planche et de me dire « Oh putain, faut pas que je déconne, faut que j'y aille doucement, faut que je réussisse à bien faire. » Surtout qu'en plus, encore une fois, comme on s'est dit, si je produis trop, en me disant bah je m'en fous, j'y vais à fond et ça sera exactement ce qu'il me faut, bah je le file à mon adversaire.
Du coup, ouais. Comme ça, c'est un jeu cadeau en plus.
Et oui, c'est un jeu cadeau en confrontation. Et du coup, alors moi là, ça fait plusieurs parties qu'on a enchaîné avec mon épouse. On adore ce sentiment-là où tu vraiment t'es là genre oh putain, faut que j'efface pile poil ce qu'il faut et tu sais que c'est pas possible. Et alors c'est à la fois frustrant et en même temps galvanisant, parce que dès que tu fais un bon coup, t'es là genre oui, la séquence elle est trop bonne, allez, c'est génial. Enfin tu vois, j'exulte, alors que bah par exemple dans Carnuta, j'étais juste bim bim bim, je surfe doucement justement et j'avais pas assez de moments où tout à coup l'émotion devenait forte et où je me disais putain, yes, j'ai réussi ce truc là, c'était chaud, mais je l'ai fait à une ressource près quoi. Et donc voilà, ce jeu-là, je le trouve très très intéressant, surtout qu'en plus, il te permet pas non plus de tout calculer. Donc quand je dis que c'est du surf, c'est vraiment ça, c'est que t'es en train de te faire, waouh putain, je peux me casser la gueule très facilement quoi. Donc faut pas non plus avoir des problèmes de frustration par rapport à ça.
Ah, tu vois, je me rappelais plus, honnêtement, je me rappelais juste que j'avais pas aimé, mais là, tu me réévoques le côté beaucoup de contraintes, et je pense que c'est ça que j'ai pas aimé quoi.
Ouais.
Beaucoup de contraintes pour réussir à faire un pauvre truc.
qui vaut 4 points, et en plus, parce qu'à la fin, tu finis entre allez, 14 et 20 points, en général, les bons jours. Et autant chez Knizia, en fait, la différence, c'est que Knizia, lui, c'est un peu celui qui a popularisé ce truc-là. Aujourd'hui, je trouve que les scoring à la Knizia, c'est un moyen assez facile et parfois fainéant d'équilibrer ton jeu et de forcer les gens à faire un peu de tout sans que ça relève de génie de la création, tu vois. C'est un peu balisé, je trouve, comme aujourd'hui, comme truc de game design. Je trouve que ça marche, moi, dans Beer and Bread, mais j'y vois pas de génie, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement à quel point tout est dur et comment ça représente la vie paysanne de la Bavière, tu vois. Enfin, c'est pas la Bavière, je crois que c'est pas localisé, mais t'as vraiment le sentiment de trimer pour faire une bière, un pain, voilà. Et d'être vraiment dans cette espèce de naturalisme paysan où vraiment t'es là et tu finis ta journée. En plus, je trouve les illustres de Menzel, pour le coup, collent très bien à cette ambiance-là. Ouais. Ça donne soif aussi, comme les bières sont très belles.
Ouais.
Mais ouais, il y a un côté un peu naturaliste, moi je trouve, dans le thème et dans la dynamique très très dure que ça représente. Et tu sais qu'il y a la suite qui est annoncée.
Ah.
Il y a Wine and Cheese. C'est pas une blague. Hein. C'est cette fois, on va aller en France.
J'avoue, t'as bien fait de préciser parce que ça sonnait comme une blague vraiment. t'es capable de faire ce genre de blague, donc.
Non, c'est Wine and Cheese de Scott Helms, prévu pour 2026. Donc voilà, je sais pas comment ça va être. Ça, en termes de mise en scène, ça se présente vraiment pareil. Ça va être aussi que à deux. Je sais pas si ça va être juste un spin-off avec les mêmes mécas ou s'il va apporter des grosses modifs, mais sachez que ça existe, enfin que ça existera. Ah,
franchement, pourtant ces jeux, ils ont tout pour me plaire. Hein. Franchement, la bière, le pain,
le
vin et le fromage. Je pense que, enfin, j'aurais que ça à manger, je serais le plus heureux des hommes. Hein, mais bon, voilà, non, en jeu, ça marche pas si bien. Bon, j'essaierai peut-être quand même vin et fromage.
Hein. Ok, bon, moi je vous laisse. J'ai aussi des jeux à récupérer là pour le week-end pour que si je, il faut que je commence un peu à organiser tout ça, à regarder le drive et puis à voir ce que je prends comme jeu en importe, ce que je mets dans ma caisse.
Le week-end aux 400 jeux.
C'est ça.
Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, ça va être cool, en tout cas.
Yes.
Allez, bah, bonne soirée, alors, les gars.
Eh ben, bonne soirée.
À bientôt.
À plus, salut. Les gars. Jouez bien, salut.
Jouez bien.